France Culture.
On imagine qu'on est le jour J et que vous êtes déjà rendu sur le continent. Les contractions de travail, on avait dit ça toutes les quatre ensemble, c'est pas les mêmes que pendant la grossesse. Et en général, vous allez vous en rendre compte aussi parce qu'elles peuvent pas parler en même temps, elles peuvent pas faire autre chose en même temps. En gros, on va appeler un chat, une contraction de travail, ça fait plutôt mal. Après, les degrés de comment ça fait mal, ça dépend un petit peu de chacun. C'est des contractions qui sont régulières. Pour un premier, vous pouvez attendre qu'il y ait des contractions toutes les 5 minutes. Pour pas un premier, vous attendez qu'il y ait des contractions toutes les 10 minutes. Et puis, c'est pas la peine d'attendre trop longtemps. Après, vous voyez, si c'est 10 minutes, mais que vous les supportez super bien, que tout va bien, que vous avez l'impression que c'est pas forcément encore trop les contractions de travail, vous pouvez attendre un peu plus. Mais l'idée, c'est qu'un deuxième, ça peut aller un peu plus vite qu'un premier. Donc, toutes les 10 minutes, c'est déjà pas mal.
Île-Dieu, le plus petit hôpital de France. Michel Pomarède, Thomas Duterre. Troisième épisode. Naître, vieillir, mourir.
Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez ?
Je cherche rien, je cherche à savoir qui vous êtes.
Ben moi je suis le docteur Larvor.
Comment ?
Je suis le docteur Larvor.
Ah bon ?
Vous me reconnaissez pas ?
Non.
Non. C'est moi qui vous ai fait hospitaliser ici.
Ah, je ne suis pas hospitalisé, moi je suis là. Je suis dans une résidence familiale, je ne vais pas dire une résidence forcée, une résidence conseillée, quoi.
Ouais.
Je vis seul.
À l'EHPAD.
Oui.
Voilà. Et là, vous êtes hospitalisé pour s'occuper de votre pied.
Oui.
Voilà.
Et j'ai des soins réguliers pour les pieds.
Ouais. Bon, vous allez retourner dans votre chambre maintenant.
Et je ne sais pas où.
Vous voulez que je vous accompagne ? Venez, c'est par là-bas. Il faut faire demi-tour. Oui. Venez avec moi. Venez avec moi. Allez, venez.
Oui.
Demi-tour. Allez, venez.
Oui, mais... Je vous vois très mal, hein.
Ah oui, c'est pour ça.
Enfin, je vous vois quand même.
Vous me voyez, mais forcément, c'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas. Venez.
Oui.
Ça va aller ? Donnez-moi le bras.
Oui.
Venez.
D'accord.
Voilà. Un pied devant l'autre. Est-ce que vous le voyez, votre numéro de chambre, là, on l'a écrit en gros.
Comment ?
On a écrit votre numéro de chambre. On l'a écrit en gros sur la porte.
Oh, je ne sais pas.
Ouais, vous voyez pas.
Alors, je suis ici, là.
Venez, venez, on continue.
La vieille maison familiale qui appartenait à mes grands-parents. Voilà.
Venez par ici.
Nathalie Semelin, où est-ce qu'on est ?
On est à l'EHPAD des Chênes Verts. Alors, moi, je suis la directrice du CCAS de l'Île-Dieu, Centre communal d'action sociale, la branche sociale. Et la particularité du CCAS, en fait, c'est que c'est un CCAS assez important pour une petite commune comme l'Île-Dieu. Dispose de deux EHPAD actuellement, l'EHPAD des Chênes Verts, avec 67 places autorisées, et l'EHPAD Calypso, avec 37 places autorisées par nos autorités de tarification.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des EHPAD depuis quelques semaines ou quelques mois ?
Oh, je dirais depuis quelques années même. Depuis quelques années, en fait, on a une baisse importante du nombre de résidents. Donc du coup, en constatant et la baisse du nombre de résidents et un déficit qui s'accroît depuis, je dirais, 2022, le déficit se creusant, il fallait trouver d'autres solutions. Et puis, ben, de toute façon, l'ARS et le département nous l'ont bien fait savoir. En réévaluant le capacitaire, puisque l'objectif était de restructurer les deux structures sur une, les chaînes vertes, il fallait réduire le capacitaire, sinon on allait se retrouver avec des déficits importants, puisqu'il y a vraiment moins de demandes d'entrée. Bah, 69, 70, 72, ce vers quoi on irait, 72 places, dont 3 places d'accueil temporaire, ça correspondrait presque à la réalité d'aujourd'hui. C'est un peu difficile à l'entendre par la population, parce que passer de 104 à 72, on se dit mais... c'est pas possible, il y a beaucoup de personnes âgées, la démographie augmente. Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui souhaitent rester à domicile avec des accompagnements adaptés. Donc nous, notre objectif, pour le moment, c'est pas mis en œuvre, c'est à travailler, c'est de réorienter la structure Calypso, qui possède quand même un certain nombre d'appartements. Au départ, il y avait 51 logements. Il y a une partie qui est vraiment dévouée à accueillir des personnes lambda, plutôt des personnes âgées, hein, avec un espèce de parcours senior, si on parle avec notre vocabulaire actuel, qui existe déjà depuis de nombreuses années sur une aile au rez-de-chaussée. Et le reste des appartements, il pourrait y avoir un peu d'accueil des personnels des EHPAD ou de la commune. Et le reste, ce serait une résidence pour personnes âgées, résidence autonomie, résidence senior ou autre forme à voir. Et on a fait une demande déjà d'habitat inclusif pour 7 logements, 6 pour personnes âgées et 1 pour personnes handicapées, et un logement de T2 en fait, qu'on transformerait en salle commune, parce que ça se développe beaucoup, ça plaît plutôt bien, et puis parce que sur les deux, ça n'existe pas, qui pourrait correspondre à des personnes autonomes, qui peuvent tout à fait s'allouer des services à domicile, comme même une douche par semaine, ou de l'entretien, ou de l'accompagnement aux courses, sans problème. Et puis voilà, qui serait sur une aile au rez-de-chaussée de Calypso, et le reste à l'étage et peut-être quelques logements au rez-de-chaussée au milieu du bâtiment qui pourraient être sur une résidence autonomie.
Le sujet du vieillissement, c'est un sujet important, les gens vivent plus longtemps. Pourquoi est-ce que les familles ou les résidents faisaient le choix de ne plus venir en EHPAD et plutôt rester chez eux?
Pourquoi? Peut-être que les établissements attirent moins au plan national, peut-être que notre établissement, qui souffre de ne pas être rénové, attire moins. Mais en même temps, quand la personne n'a pas le choix que de venir en institution, elle vient quand même. Mais on a moins de demandes. Plus de gens qui essaient de rester à domicile et qui rentrent tard et du coup qui restent moins longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui rentrent, si je ne dis pas de bêtises, et qui des fois restent 6 mois, 1 an, 2 ans, alors qu'on a eu, moi je me rappelle, une dame qui est restée près de 30 ans. Ça n'arrivera plus, ça. Et ils sont rentrés en foyer logement.
Je ne sais pas si je m'y prends bien.
C'est par où? Alors, on va aller dans le bureau de direction.
Hop, je vous devance.
Je viens pas beaucoup par là.
Ben oui, c'est ça. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire la direction.
On va vous installer là, toutes les deux. Et on va se mettre là.
Votre prénom?
Oui, Paulette.
Paulette. Et vous, madame?
Liliane.
Liliane.
Et vous?
Sylvie.
Est-ce que vous êtes ilaise, Sylvie?
Non, je ne suis pas ilaise. Mais j'ai une fille qui est presque ilaise, qui est là depuis 25 ans. D'accord. Mais je ne suis pas née ici.
Donc Paulette, elle est ilaise?
Ah, pur sang.
Pur sang. Sur plusieurs générations?
Oui, oui, oui. J'ai toujours. C'est-à-dire, j'avais une maison continent, mais j'habitais beaucoup l'île-Dieu. Mais comme j'étais mariée 2 fois, mon deuxième mari avait une maison à Fromentine. Alors, on l'a toujours gardé, parce que mes enfants habitent dedans très souvent. Voilà.
Et vous, Liliane, c'est Liliane, hein?
Oui, Liliane.
Liliane, est-ce que vous êtes ilaise?
Non. Dieu non, je suis belge.
Voilà. D'où ça?
De Bruxelles.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites sur ce caillou?
Bonne question. Mon fils étant amoureux de l'eau, ayant eu l'occasion d'acheter ici une seconde résidence quand il a été retraité. Moi, j'étais devenue veuve et m'a dit, on souhaite aller habiter là-bas. Si tu veux nous suivre, tu nous suis. comme j'étais devenue malvoyante et que je ne pouvais plus me retirer d'affaires avec mes papiers, j'ai dit, ben, je te suis et voilà tous mes papiers.
Et vous êtes donc sur l'île.
Donc on a trouvé ici un joli petit pavillon.
Ah oui.
Et qu'on a bien arrangé. Et j'ai vécu 4 ans dans ce petit pavillon. Et puis depuis 4 ans, je suis ici.
On peut dire, Bastien Desplanques, que votre métier a changé ou s'est transformé ou vous en avez découvert d'autres aspects.
Je ne sais pas si j'ai découvert d'autres aspects. Alors si, j'ai découvert le soin palliatif que je pratiquais succinctement comme ça. J'ai eu une première expérience quand je suis arrivé assez tôt d'une patiente qui venait de Lyon et du coup qui venait ici pour une prise en charge de fin de vie en fait. Donc c'était un choix. C'est quelqu'un qui venait ici depuis des années avec une maison secondaire familiale et du coup qui était maître de sa fin de vie et que l'équipe accompagnait dans ses choix en fait, qui était très résiliente et qui avait prévu que toute sa famille arriverait. Elle était partie se baigner, elle était sortie avec sa famille, on avait bien profité, était revenue et elle était... je crois décédé le soir même ou le lendemain, mais voilà, sereine et en ayant accompli ce qu'elle désirait. Voilà, je vous présente Sylvie, donc c'est ma collègue qui prend le relais, la relève, qui récupère les bilans et qui les emmène avec tout un circuit, je crois. Hein.
Comment ?
Tu vois d'autres...
Ah oui, je viens là, je vais aux deux EHPAD, je vais au cabinet médical, au cabinet infirmier, puis je vais les déposer à l'hélico.
Et après, tu prends ton hélico et...
Alors, c'est pas moi qui prends l'hélico, bon, c'est juste la glacière. Quoi qu'hier, je l'ai fait. Avant, c'était un saut, maintenant, c'est une glacière, depuis le Covid. Parce qu'il y en avait un peu beaucoup de prélèvements. Voilà, et c'est plus sécurisé. C'est mieux.
Bah, bon voyage avec la glacière. Merci. Et les prélèvements sanguins.
Merci.
Ah, excusez-moi. Désolé. Hôpital du Monté, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous me laissez 2 secondes. Je vais voir le médecin. Je ne sais pas si elle a reçu les résultats, mais...
Allez, on va se mettre dehors. Je suis une petite clope pour l'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'ils ont mis dessus ?
Marc-Antoine Larvor, est-ce que c'est la vie rêvée des blouses blanches ici ?
Vie rêvée, je pense pas, parce que enfin, mine de rien, bon, on est de bonne humeur, on est bien organisé, on a traversé quand même des moments pas faciles avec une pénurie médicale, et c'est ça qui nous a en fait poussé à réfléchir en profondeur sur voilà, c'est quoi le qu'est-ce que veulent les nouvelles générations de soignants, qu'est-ce qui fait vibrer les médecins de demain. Comment est-ce qu'ils envisagent leur exercice? Et on le voit, la société a évolué. On n'est plus du tout comme dans il y a 20 ans, il y a 30 ans, où la position du médecin était quasi sacerdotale, où les médecins travaillaient du lundi au samedi, voire le dimanche, de jour, de nuit, pas de vie de famille, ils ne voyaient pas leurs enfants grandir. En fait, c'est plus possible. C'est plus possible dans toutes les professions, et les médecins y compris. Je pense que ce qui nous a sauvés en médecine, c'est la féminisation, c'est-à-dire que, en fait, les femmes ont imposé en fait le fait que, même si on est médecin, qu'on soit homme ou femme finalement, ben on a le droit d'avoir notre vie de famille, on a le droit d'avoir des temps pour nous et de bien distinguer la vie professionnelle de la vie personnelle. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, c'est ça qui fera que demain, on aura des hôpitaux qui seront attractifs et d'autres qui ne le seront pas. Parce que quand on est dans une situation de pénurie, il y a une pénurie de médecins, une pénurie d'infirmières, une pénurie d'aides-soignantes, où vont travailler les gens qui aiment leur métier, bah dans les endroits où les conditions de travail sont les meilleures.
Là, les projets gouvernementaux d'imposer à des jeunes médecins ça et ça, enfin, vu de votre point de vue ici, vous jugez ça comment ?
Donc là, vous faites allusion, je pense, à l'obligation d'installation, d'envoyer les docteurs juniors dans des déserts médicaux. Très honnêtement, je pense que c'est une bêtise. En tout cas, c'est une bêtise annoncée comme ça. Envoyer un jeune médecin qui n'a pas d'expérience dans un désert médical où vous n'avez même plus de bureau de poste, vous n'avez même plus de boulangerie, la pharmacie est en train de fermer, la gendarmerie a fermé, vous allez envoyer un jeune médecin tout seul, qui a peut-être lui aussi le droit d'avoir une femme, des enfants, qui travaille. Comment est-ce que vous allez les envoyer en fin fond de la Creuse ou dans un endroit extrêmement reculé, qui est peut-être très joli, hein, mais qui peut, pour un médecin, en tout cas quand il exerce tout seul, peut devenir vraiment l'angoisse absolue. La médecine telle qu'elle est organisée, la médecine moderne, c'est un travail d'équipe et c'est un travail qui se repose sur des outils diagnostiques. Tout ça, c'est des investissements qui sont colossaux, qui ne sont pas supportables par une seule personne. Et donc, je pense qu'il ne faut pas imposer à des jeunes praticiens d'aller dans des déserts médicaux. Je pense qu'en revanche, c'est au ministère de la Santé, c'est à l'État d'investir dans des petites unités un petit peu comme la nôtre, avec un nombre limité de lits. C'est pas des investissements énormes, mais ça permettrait de monter des équipes sur la base du volontariat. Et je suis sûr que si on propose à des jeunes médecins qui sortent de la faculté, qui ont la tête bien faite, ça fait 10 ans qu'ils passent des examens en permanence, si on leur dit voilà, il y a une nouvelle unité qui s'ouvre avec le plateau technique qu'il faut, avec un travail organisé en équipe, vous faites à la fois de la médecine de ville, un peu de la médecine hospitalière, un peu de médecine d'urgence, je suis sûr que même sur la base du volontariat, on aura des volontaires. Mais les envoyer comme ça au casse-pipe, ça marchera pas, ça va faire des dégâts en fait.
Mais qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans ?
Pas grand-chose. On a confiné surtout parce qu'on avait des hôpitaux qui étaient sous-dimensionnés, pas assez de lits d'aval. Je crois que depuis le Covid, on a continué d'enfermer. Et si demain il y a une crise à peu près identique qui se représente, on sera à peu près dans la même configuration malheureusement. Nous, ce qui nous a manqué pendant le Covid ici, c'était le fait que on n'avait pas de scanner sur place, puisque avant qu'il y ait les PCR, on n'avait pas de PCR au début. On n'arrivait même pas à diagnostiquer les maladies. Au tout début de l'épidémie, on faisait un diagnostic, on évoquait un diagnostic en fonction des signes cliniques, mais on disait c'est peut-être un Covid, mais en fait on n'en avait aucune certitude. Les PCR sont arrivés qu'au bout de 6 mois de pandémie. Mais on s'était rendu compte qu'avec le scanner, on avait des images pulmonaires assez évocatrices qui évoquaient le Covid. Et nous, comme on n'avait pas de scanner, on était obligés d'évacuer les malades, même s'ils n'avaient pas une désaturation majeure. Mais pour faire le diagnostic et les prendre en charge, ce qui imposait de les évacuer par voie héliportée avec des pilotes d'hélico qui étaient en scaphandrier, ce qui était un vrai défi de piloter un hélico en combinaison étanche. Donc il faut se dire ce que c'était. Hein. Donc on est passé vraiment par des moments difficiles, en fait. Et oui, c'est un peu navrant de se dire que si demain, il y a une épidémie qui revient, je crains que ce soit un petit peu la même chose qui se passe.
Mais préparation à la naissance, Nadège Renard, vous, en tant que sage-femme, les femmes ne peuvent pas accoucher ici ? Ou ça arrive par accident ?
Si ça arrive, c'est par accident.
Donc vous les préparez à prendre le bateau à partir de quel mois ?
En général, on leur demande de partir 15 jours avant terme. Et puis il y a des patientes qui demandent à être déclenchées 15 jours avant terme parce qu'elles n'ont pas de moyens d'hébergement sur le continent. Donc c'est plus facile au niveau organisationnel, quoi.
Elles vont où ?
Alors, il y a une bonne partie qui va à Challans, étant donné que c'est le même groupement hospitalier. Une autre partie, après, ça dépend surtout si elles ont des possibilités d'hébergement ou pas, et des pathologies aussi, parce que c'est pas tous les mêmes niveaux de soins au niveau maternité et pédiatrie. Une partie va sur La Roche-sur-Yon, soit en clinique, soit au CHD de La Roche-sur-Yon. Une partie va à Nantes, en clinique ou au CHU.
Et des naissances par accident, ici, ça vous est arrivé ?
Alors, jamais quand j'étais là, mais c'est déjà arrivé. L'année dernière, il n'y en a pas eu. Après, c'est une grosse année à bébé sur le milieu cette année. Il y a une trentaine de naissances prévues en 2025. De ce que je me rappelle, en 2021, il y en a une, elle s'apprêtait à prendre l'hélicoptère et elle a accouché à l'héliport.
Donc il a un statut particulier, ce bébé, il peut voyager gratuitement maintenant.
Je sais pas, vous répondez, mais j'espère pour lui quand même. Mais ouais.
Donc là, vous avez quoi dans les mains?
J'ai un poupon, un bassin féminin, j'ai des petites choses pour montrer comment se déroule un accouchement et le travail aux patientes.
Elles sont à combien là?
Là, elles sont toutes en fin de grossesse, 8e mois en général, 7 ou 8e mois. Bon ben, bienvenue aux deux papas. Aujourd'hui, on est censé voir un petit peu les positions qu'on peut faire pendant le travail, la respiration, la poussée et tout ça. Et puis après, si vous avez d'autres questions aussi, et il nous restera un cours après.
Venez par ici.
Et puis on aura fini notre série de cours.
Je vous suis. Oh là! Alors c'est ma chambre.
Ici, c'est votre chambre. Vous reconnaissez?
Oui, je vois Ellie.
Voilà, voilà. Allez, venez.
Bon. Je vais toujours m'asseoir sur le lit.
D'accord.
Vous pouvez en faire autant, hein?
Non, non, bah, c'est bon.
Voilà.
Votre pied, ça vous fait pas trop de mal, là?
Comment?
Vous avez pas trop mal à votre pied?
Oh, c'est gênant quand même.
C'est gênant quand même.
Oui.
Hein? Bon. Et vous avez compris que vous allez aller à la Roche-sur-Yon cette semaine?
Je dois aller à la Roche-sur-Yon?
Oui. Pour continuer à soigner ce pied.
Pour?
Soigner le pied.
Oh, mais...
On vous a expliqué tout ça.
Hein? Je ne sais pas si j'ai ça de noter quelque part, mais je ne m'en souviens pas de toute façon.
Bon, et là, je vais demander à l'infirmier de revenir vous voir pour tout vous réexpliquer. Hein? D'accord? Vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Hein? Ok? Bon, à plus tard.
Oh, s'il faut que j'aille à la Roche-sur-Yon, il faut organiser tout ça.
Vous n'avez rien, vous vous occupez, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout.
Bon.
Vous inquiétez pas.
Ah, vous êtes le docteur Lavaux, hein?
Exactement.
D'accord.
Allez, à plus tard.
Que vous, dans ces 10 dernières années ici, vous avez déjà fait un accouchement d'urgence?
Ouais, j'ai fait un accouchement en 10 ans. Bon, ça s'est fort heureusement bien passé. Mais on a eu dans les années 2015-2016 une sorte d'épidémie d'accouchement sur l'île. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu une course à celles et ceux qui auraient des enfants sur lesquels, sur leur carte d'identité, il y aurait marqué « né à l'île-Dieu ». En fait, c'est parti de là, et très vite, nous on a dit, non mais attendez, là c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, c'est beaucoup trop dangereux, on prend beaucoup trop de risques. Et donc ça a été tout un travail déjà d'information de la population, d'expliquer aux gens que c'était vraiment pas souhaitable, et donc ça nous a poussé à réorganiser la prise en charge des parturientes, avec justement le renforcement de cette consultation sage-femme, cours de préparation à l'accouchement, où en fait on délivre aussi des messages, hein, c'est quoi les signes d'alerte quand on est enceinte, a fortiori quand on est en fin de grossesse, et puis de donner, on a pas mal réfléchi avec mes collègues médecins de l'Île-Dieu et avec nos collègues gynécologues sur le continent, en donnant un délai de 15 jours, c'est-à-dire de partir 15 jours avant le terme de la grossesse sur le continent. Alors, ce qui peut poser des problèmes, hein, parce que tout le monde n'a pas de logement sur le continent, tout le monde n'a pas forcément de famille ou d'amis prêts à les recevoir. Mais globalement, depuis ces mesures-là qu'on a prises et d'informations de la population, je crois que sur 2024, on n'a pas un accouchement qui a eu lieu sur l'Île-Dieu, et 2025, toujours pas, donc c'est plutôt bien.
Mais c'est une année à bébé. Il paraît qu'il y a 30 bébés qui sont annoncés.
Ouais, mais je crois que l'année dernière était une année à mort, donc il y avait plus de morts que de naissances. Bon, donc c'est le cycle de la vie, ça.
Eric Tarot, c'est quoi votre rôle sur l'île-Dieu ?
C'est le sauvetage en mer. C'est la station de sauvetage en mer, mais on a la particularité de faire des évacuations sanitaires à la suite de l'hôpital. Quoi.
Alors comment ça se passe ?
Bah, c'est quand l'hélico ne peut pas passer. Les 90-15%, c'est l'hélico qui les fait, mais les jours de brouillard, les personnes agitées, l'hélico ne les prend pas. Donc on va les conduire. Il y a une heure de route.
Une heure
de traversée.
Vous dites une heure de route.
Ouais, enfin après c'est. On va dire 2 heures pour être à l'hôpital à La Roche, quoi.
Votre camion c'est où ?
Là.
Là, allez. Vous faites ça depuis combien de temps ?
Moi ça fait 40 ans. Camion de pêcheur, hein. On va se mettre à faire. Hein.
Avant qu'il y ait l'hélico, on en faisait beaucoup. Hein. L'évacuation, l'été, c'était pas toutes les nuits, mais au moins toutes les deux nuits. Après 84, l'hélico est arrivé. Donc, ça a commencé à faire un peu moins. Mais... Oui, on est rendu, on n'est pas loin. Hein.
Le très très fort et longtemps, c'est en fait le temps de la contraction. On essaie de pousser le plus longtemps possible. Quand on n'a plus d'air, on souffle. Et quand on reprend de l'air aussitôt, et on essaie de pousser une deuxième fois. Au moins 2 fois, et pendant la contraction. Et ça se passe pendant la contraction, parce que du coup, la contraction va vous aider à faire avancer bébé.
Il faut qu'on pousse 2 fois sur une contraction.
Si vous bloquez. Vous allez voir que ça va être différent en soufflant. En le faisant, ça va être plus facile. Je ne sais pas si vous vous rappelez toutes les deux qui avaient déjà accouché, mais le mot préféré des sages-femmes en salle d'accouchement pendant l'accouchement, c'est « encore ». Vous n'en rappelez pas ? Si. vu le sourire, si. Pour vous donner une petite idée de combien de temps on pousse, du coup, si je le fais en vous disant « encore », on va vous dire « vous prenez de l'air, vous soufflez, vous reprenez de l'air, vous bloquez et vous poussez. Encore, 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 encore. Vous soufflez. » Vous reprenez de l'air et on recommence une deuxième fois. Donc ça veut dire que c'est quand même physique. C'est pour ça qu'on pousse qu'à la fin, quand bébé il est vraiment engagé à la partie moyenne ou à la partie basse du bassin. On prend de l'air, on souffle. Ça c'est une fois pour bien vous oxygéner. Vous prenez plein d'air. Vous bloquez l'air et très fort dans ma main. Allez-y encore. Super, lâchez tout. On a raccourci, hein. C'est un tout petit, je ne suis plus. Normalement, on est censé faire une deuxième fois. Ok. Là, en tout cas, vous étiez efficace. Bon. On essaye l'autre. Vous soufflez, vous prenez plein d'air. Là, comme si vous souffliez dans une paille et vous amenez le dentifrice vers le bas, là, vers ma main. Laissez monter. Comment vous sentez les choses ?
J'ai l'impression que vous poussez plus bas, mais que ça poussait moins dans le ventre. Enfin, je sais pas comment dire.
Ouais. En vrai, c'était un petit peu moins efficace.
Ah ouais, c'est ça.
Okay. Après, effectivement, si on dit on fait descendre bébé pour l'accompagner, vous pouvez faire celle-là, si en plus ça vous soulage et tout ça. Mais c'est vrai que l'autre était un petit peu plus efficace.
Ok.
Si c'est pour la suite de l'hôpital, bon, ça c'est une particularité ilaise. Quelques Belles, il fait ça aussi, et Ouessant, Molène aussi, ils font beaucoup.
Est-ce qu'il vous rappelle d'une évacuation un petit peu spectaculaire ou qui vous a marqué ?
Il y en a plein, mais on a amené une femme pour accoucher aussi, et ils l'avaient emmenée en hélico, ils n'avaient pas pu se poser sur le continent par le brouillard. Et elle a croyé qu'elle était sur le continent quand ils se sont posés. Et puis il y avait un peu de vent quand même. Donc quand elle m'a vu à la porte de l'ambulance, son mari, elle me dit « ça va aller Eric ?» Je fais « ouais, ouais, ça va aller, oh, t'as pas l'air sûr, bah, ça va secouer un peu quand même. » Bon, on l'a emmené, ça a été, elle a eu un beau bébé après, mais pas dans le bateau, hein, heureusement, mais... Bon, il y a des beaux trucs comme ça, quoi, ça... Bon, voilà, il y a des gens qu'on a emmenés, qu'on savait qu'ils reviendraient pas, mais ça... voilà, qu'ils étaient vivants avec nous, après, c'est, voilà, l'âge, et la vie, quoi.
Il y a des bébés, sauvetage en mer, depuis 30 ans?
Dans celui-là, non. Dans l'autre, moi, toi, avant, oui, il y en a eu deux, je crois. Ouais, il y en a eu deux qui sont nés. Dans celui-là, non. Ça a chauffé des fois, mais ça s'est rendu à l'hôpital. Ça nous est arrivé une fois, le médecin n'était pas avec nous, et l'ambulance n'était pas à l'arrivée. Ben, on était pas fiers. Hein. Et le bébé est né le lendemain en siège. Heureusement qu'il ne s'était pas engagé, parce que là, on n'était pas bien. À l'appontement, à l'époque, on allait à Fromentine, on n'était pas... non. On l'a emmené plusieurs fois, des femmes enceintes. Hein. Mais bon, avec une piqûre, ça tenait la route, quoi, pour le temps de faire la route. Quoi. Ça arrivait souvent, plusieurs fois. Hein. Mais maintenant, ils les font partir avant. Mais il y a 30 ans de ça, on mettait le malade entre les deux bateaux, là, puis on passait en pleine nuit sur un autre plus petit. Quand il y avait une femme enceinte, je vais vous dire qu'elle braillait. Hein. Mais c'était hard. Hein. On l'a fait des dizaines de fois. Hein. On se mettait comme on pouvait à l'abri du vent, enfin à l'abri. On faisait ça souvent. Hein. Alors là, la mer sera trop basse, on va sortir le petit bateau. On allait s'accrocher au brancard, hein, je vais vous dire. Bon, ça n'existe plus. Hein. Là, on en fait entre 10 et 15 par an. On est allé une fois chercher des ampoules de chimio. Tout simplement, il y a un brouillard, pas d'hélico. Les gens, ils reçoivent tous les jours, alors ceux qui font, certains. Et je me trouve à la pharmacie, je cherche du médicament. Puis j'entends Jean-Christophe, là, le patron de la pharmacie, qui dit « Oh putain, c'est chiant, on n'a pas les chimios. Bah, » Je dis « Excuse-moi, j'ai entendu ta conversation, mais nous, on peut y aller, hein. On est là pour ça, c'est pas... Ça fait partie du rôle, hein. Tu veux, bah oui, bah je dis oui. Hein. Et si tu veux, dans le temps que j'appelle les gars, dans une heure et quart, on est à Saint-Gilles, tu fais venir le truc, on retourne, hein. Donc on est allé, ça fait partie de notre mission dans une île, quoi. On n'est pas non plus... on fait, bon forcément, quand on fait une sortie d'un remorquage, on fait payer, ça c'est le... Mais ça on fait pas payer, ça fait partie de la vie de l'île, quoi. C'est la ligne, quoi. Tout simplement, hein, on est revenu avec une petite boîte, mais les gens ont fait leur chimio dans la journée, quoi. Il y avait un brouillard, on voyait pas le bout de son nez, hein. C'était... Bon, c'est comme ça, hein. C'est l'hiver. Mais vous voyez, c'est des trucs qu'on fait pas ailleurs, quoi. Une autre fois, on a emmené un corps. Le pompe funèbre avait raté l'heure du bateau pour aller à une crémation. C'est tout con, mais... Celui, il y a 30 ans qu'il a la boîte, et bon, ben voilà, il nous appelle, il dit « Les gars, je suis dans la merde, la famille est partie, la crémation est dans 2 heures, et j'ai raté le bateau, quoi. » Bon, ben j'y viens, viens vite. Hop, on embarque. Là, c'est... On n'a pas le droit de faire ça, hein, mais... On embarque le cercueil en route à Saint-Gilles, un collègue à lui là-bas, hop... À l'heure, à la crémation.
C'est pas grave. Je vais juste me mettre sur la mise à point. Si ça va être sur la mise à point, on me rappelle à la mise à point. Et c'est important.
Qu'est-il arrivé aux patients de la chambre 3 ?
Il est parti à La Roche-sur-Yon. Il était prévu une prise en charge chirurgicale en chirurgie vasculaire pour tenter soit de revasculariser son pied, soit, je crois, de lui enlever l'orteil. Il a été déposé dans le bateau et puis il devrait arriver là, incessamment sous peu à La Roche-sur-Yon pour être pris en charge.
Mais alors, est-ce que vous avez un retour justement d'un médecin sur La Roche-sur-Yon qui va vous dire, bah, ce petit monsieur, voilà ce qui lui est arrivé ?
Ah bah bien sûr. En fait, comme dans tous les hôpitaux de France, nous déjà, on a fait la prise en charge initiale, c'est ce que je vous expliquais. Donc, on a produit un compte rendu d'hospitalisation où on décrit tout ce qu'on a vu, fait, constaté. Pareil, le médecin qui prend la suite à La Roche-sur-Yon, eh ben, il va prodiguer les soins. Il y aura probablement une intervention chirurgicale. Il fera un compte rendu opératoire, un compte rendu d'hospitalisation. Et probablement que ce patient-là nous sera renvoyé après les soins à La Roche-sur-Yon en soins médicaux de réadaptation, c'est-à-dire la suite de prise en charge chirurgicale pour panser les plaies, gérer le traitement de la douleur, surveiller la cicatrisation et puis réhabituer le patient à remarcher, à vivre en fait le plus normalement possible avant de le ramener à l'EHPAD. peut se dire que si tout se passe bien, d'ici un mois, ce patient-là sera de retour à l'EHPAD comme si de rien n'était.
Donc ce patient qui est venu de l'EHPAD, qui a peut-être traversé le
oui,
petit couloir,
tout à fait,
qui a été hospitalisé ici et parti à La Roche-sur-Yon, va partir dans un des 6 lits SMR, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et va repartir de l'autre côté.
Voilà, c'est ça, c'est la boucle.
Circuit. C'est le circuit patient, voilà. C'est fluide et finalement, bah, voyez, bah, il se rend compte de rien. Bon, c'est, voilà, mais c'est le vieillissement. Hein. Malheureusement, il faut se dire qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui vieillira comme ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut organiser les structures de soins. C'est pas quand on va avoir un afflux de personnes âgées avec le vieillissement de la population qu'on va avoir des hôpitaux qui sont surchargés. C'est pas dans 10 ans qu'il faudra se poser les questions. C'est maintenant et être prêt à faire face à ce type de prise en charge.
C'est une aventure, en fait, le soin ici aussi, sur les lieux, en fait.
C'est une aventure, mais on est bien aidé et ça marche bien. Enfin, vous avez pu le voir, hein, mais finalement, l'été, quand on discute avec des gens de Paris ou ailleurs, hein, faites un infarctus à l'Île-Dieu, ça va plus vite que dans les bouchons à Paris. Hein. Ah non, mais c'est vrai. Allez, 20 minutes après, ils sont sur le toit du CHU Nord, là-bas, à Nantes. Hein. Puisque l'hélico est toujours basé là, donc ça va plus vite. Quand il faut faire venir l'hélico du SAMU, ça prend un peu plus de temps. Déjà l'été, parce qu'il est pris pas mal ailleurs. Mais nous, on a l'hélico, les gars, ils sont là, on met dedans et en route. Hein, ça... Même la nuit, hein, ça va vite. Hein.
C'est-à-dire, un des patrons là, qui attend, vous êtes 7, il dort avec son portable?
Ouais. Bon, on a une application, on se met disponible ou pas, suivant comment on est, et puis on regarde. Tu vois, moi, je suis à la nuit, je suis là. Là, en journée, je vais un peu en mer encore. Je suis à la retraite, mais je vais en mer un peu. Mais dès que je rentre, je me mets en vert. Et puis, bon, le cross, c'est le cross Etel qui appelle. Il a la liste, hein, il voit bien. Tu vois, le premier qui est vert, hop, il appelle. Il essaye une fois et deux. Si des fois le gars, il n'a pas entendu, ça peut arriver. Il appelle l'autre après, quoi. Oui, il y a toujours un ou deux. On veille à ce qu'on ait toujours au moins un qui est là, quoi. Parce qu'on bosse, il y a des gars qui sont à la compagnie du continent, les commandants des bateaux. Là. J'en ai deux patrons. On est une équipe de, entre parenthèses, de jeunes, mais ça veut dire qu'on bosse, quoi. Mais on s'arrange. Moi, ça m'est arrivé de dire, le gars de la compagnie, là, il rentre vers 10h le bateau le matin. Avant, j'ai personne, mais j'attends qu'il revienne. Puis je pars en mer après, quoi. Qu'il y en ait toujours un là, quoi. On n'est pas loin. On communique, quoi. Même là, on a des gens qui sont retraités, mais vraiment retraités. Mais les anciens patrons, ils sont toujours là. S'il y a besoin, ils prendront le bateau. On laissera pas le bateau le long du quai. Il y aura toujours un gars qui sera là. On appellera les anciens. On sera hors la loi parce qu'il sera hors service, mais il prendra le bateau quand même. On laissera pas le bateau le long du quai.
Quand vous sortez en mer, c'est pour pêcher?
Ah oui. Je suis à la retraite depuis 5 ans, mais j'ai gardé mon petit bateau là. Je suis toujours actif, quoi.
Qu'est-ce que vous attrapez?
Des homards.
Bleu?
Ah, bleu, oui. Il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des homards bleus. Hein. C'est une fausse idée, ça. Ils disent toujours les homards bleus de Bretagne, mais c'est les mêmes ici.
Et donc, après, vous le cuisinez comment, le homard bleu?
Nous, on le mange bouilli, mayonnaise, souvent. Ou alors à la plancha. C'est pas mal aussi. Enfin, c'est toujours bon, les homards. Hein. Moi, je fais les homards et l'hiver, je fais le bouquet, la crevette. Donc, ça va. Il y a pire. Pour la retraite.
Paulette, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie ici?
De ma vie, mais comme tout le monde, j'ai travaillé. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Quand mes enfants étaient un peu plus grands, j'ai été préposée au PTT. Et puis j'ai fait 20 ans de carrière. Et depuis, ben, je suis toujours à l'Île-Dieu. Mais moi, j'aime bien mon pays. Moi, je suis née à l'Île-Dieu et j'ai une maison en Fromentine, mais Paulette, il va jamais. Je suis trop vieille maintenant.
Alors, depuis qu'on est là, on nous dit la même chose. L'Île-Dieu, c'est pas la France, c'est à côté de la France.
Ah ben, oui, quand même, un peu. Oui, un peu. On est un petit peu à part. On n'a pas la même mentalité, nous, ici.
Alors, c'est quoi?
Je sais pas. On vit pas comme en ville, quand même. J'ai habité plusieurs années à Cholet. Je venais tous les 3 semaines au bout de 3 semaines et moi, j'étais revenue sur les lieux, prendre un bol d'air. Puis après, mon mari, bon ben, comme il a été décédé, je suis restée sur les lieux. Et puis ensuite, j'avais un petit copain de jeunesse qu'on s'était fréquenté. Il était veuve, moi aussi. Il m'a dit, tu viendrais habiter avec moi, bon, on serait bien tous les deux. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. Puis voilà ma vie.
Vous êtes à l'EHPAD depuis quand, Paulette ?
Ça fait 2 ans du mois de mai.
Comment ça se passe la vie ici ?
Moi, tout est bien. On mange bien. On a des bons desserts le dimanche. Je suis très gourmande, mais pas beaucoup d'alcool. Que le dimanche dans les fêtes. Autrement, c'est de l'eau gazeuse. On ne change pas. Hein. J'ai été comme ça toute ma vie.
Vous, Liliane, arrivant de Bruxelles, donc de très loin, comment vous avez découvert l'île et la singularité que nous raconte Paulette ?
Oh, j'étais venue 15 jours en vacances avec mon fils il y a 10 ans. Et puis maintenant, me voilà installée ici. Pour moi, ça a été très difficile. Venant d'une grande ville, je me suis retrouvée ici dans une petite île et ça n'est pas facile du tout, croyez-moi.
Parce que là...
Les îles sont très gentilles. Tout est magnifique, mais ce n'est pas ma vie. J'ai eu la vie d'une grande ville. C'est difficile. Il faut s'y faire.
Sylvie, vous pensez la même chose ?
Moi, je pense tout à fait la même chose.
Mmh. Votre vie, c'était quoi ?
Moi, je suis venue à Lisieux la première fois en 1963. J'ai passé mon voyage de noces ici. Et mon mari est tombé amoureux de cette île. Et à sa retraite, j'étais beaucoup plus jeune que lui. Il est venu ici et on a habité une maison qu'on avait fait construire à la Croix pendant plusieurs années. Et puis il est décédé et moi je suis partie de Lisieux et une de mes filles est restée à Lisieux. Alors à la suite de ça, il y a quelques années, je me trouvais seule en Bourgogne. J'avais du mal à rester seule dans cette ville qui est très belle, mais qui est un peu éloignée de tout. Et mes filles et moi, on a décidé que je venais à Lisieux. Mais moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Je suis un peu comme Liliane, parce que ici, les gens ont beaucoup de familles. Et il y a toujours quelqu'un pour venir les voir. Et entre eux... Ils sont la tante de la nièce, du beau-frère, etc.
Ça, c'est vrai.
Et nous, on n'a pas ça. Quand je dis nous, je parle de Liliane et de moi. Mais bon, moi, ça fait 2 ans que je suis là. Je commence à m'habituer. Je commence maintenant.
À quoi vous le sentez ?
Eh ben, je sors un peu plus. J'accepte de voir un peu plus... les gens d'ici. Je dis j'accepte parce que la première question qu'on vous pose quand vous êtes arrivé à Lisieux, c'est est-ce que vous êtes de Lisieux ? Alors, c'est quand on n'est pas de Lisieux, c'est un peu difficile.
Alors,
ça va ?
Tu vas bien ?
Ça va,
ça va, oui. Fait chaud ?
Fait chaud, quoi. Ah. Ouais.
Ouais.
Sophie ?
Oui.
Quel âge vous avez ?
56.
Et donc, Virginie s'occupe de vous et il y a d'autres personnes qui viennent s'occuper de
oui,
vous, c'est
sûr,
ça ?
Oui, bien sûr, oui. Il y a un roulement, quoi. Je fais les mêmes.
Et Virginie me disait que vous avez été aussi aide à domicile.
Oui,
vous-même.
25 ans. Ouais, ouais.
Donc vous connaissez le métier, en fait.
Ah bah oui, oui. Je suis comme toi aussi, ça fait longtemps que tu...
Moi, ça fait plus de 28 ans.
Bah oui, hein, donc c'est plus que moi.
Et j'aime mon métier, donc j'ai l'intention de continuer encore.
Ah oui, c'est très bien, ça. Il en faut des gens comme vous.
Oui, oui, oui. Des gens ont besoin de nous.
Il faut du courage.
Sophie, est-ce que vous êtes illaise?
Oui, je suis née à Lisieux.
Est-ce que vous avez un surnom?
Non. Sophie, Soso, mais sans plus. Hein.
Et vous, Virginie? Vous êtes illaise?
Je suis illaise, oui.
Et vous avez un surnom?
Oui.
C'est quoi?
Du côté de mon papa, c'est Pipo. Et mon mari, c'est Lachaud. Ouais. Ici, on connaît beaucoup les gens par les surnoms.
Hein. Oui, là, oui.
Et pour ce qui est soins médicaux, qui intervient pour Sophie si elle a besoin?
Il y a les infirmiers à domicile qui font évidemment là, les soins, tout ça. Et nous, on a le service d'aide-soignante à l'ADMR, aide à domicile en milieu rural. Et on a le service d'aide-soignante qui font les toilettes aussi. Nous, ça nous arrive aussi de faire des aides à la toilette.
Depuis 28 ans, donc, vous êtes aide à domicile.
Oui.
Quelle est l'évolution par rapport au vieillissement de la population sur l'île que vous avez constaté?
Avant, les gens rentraient plus facilement en EHPAD. Elles sentaient plus capables de rester chez elles. Enfin, elles avaient envie de rentrer, que maintenant, les gens veulent rester à domicile. Donc, du coup, on a plus de travail. On va faire les repas, on assiste plus les personnes. Elles rentrent en EHPAD quand vraiment elles ne peuvent plus rester chez elles. Et les gens vieillissent de plus en plus vieux. Donc, l'espérance de vie s'allonge. Donc les gens plus de 90, 95 ans, on va chez eux encore. Hein.
Et les gens, est-ce qu'on peut dire que c'est une majorité de femmes et que les hommes sont partis avant?
Oui, on intervient beaucoup chez les femmes quand même. Chez des femmes, oui, ça c'est sûr. Oui. Il y a des couples aussi. Moi, l'année dernière, j'avais été un couple, ils avaient 100 ans. J'intervenais chez eux jusqu'en juillet dernier.
Et alors? Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Et alors, il y a eu une fuite de gaz, en fait. Lui a été retrouvé décédé. La dame, dans un état critique, est décédée le lendemain. Ils avaient jusqu'à 100 ans pour elle et 99 ans pour lui. Donc là, c'était un choc. Ouais, c'est un choc, ouais. Partir comme ça, c'est un choc. Et d'un autre côté, on se dit, ils sont partis tous les deux en même temps aussi. Mais c'est vrai que c'était dur. Très dur. C'est jamais facile, parce qu'on côtoie les gens quand même pendant longtemps. Certaines personnes, on intervient pendant des années. Donc là aussi, c'est pas facile quand les personnes partent.
Comment vous gérez ça, justement, Virginie Tarot? Si vous accompagnez des gens sur la longue durée, puis tout d'un coup, là, ce fait divers tragique, je sais pas, est-ce qu'il y a une formation, l'ADMR, est-ce qu'il y a des...
On a un psychologue. Enfin, on a nos réunions où on peut en parler. Hein, et on a un psychologue qu'on peut voir, qu'on peut contacter et qui vient par le biais de l'ADMR.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire Virginie, pour Sophie, aujourd'hui?
Alors, je sais pas, Sophie, tu veux quoi aujourd'hui? C'est des courses ou du ménage? Du ménage?
Si tu peux, ouais.
Oui, d'accord, c'est toi qui vois.
C'est toi qui
me dis.
Ouais, il n'y a pas de souci.
Si c'était des courses ou si c'était le ménage, je ne savais pas. Donc, on va faire les carreaux. Pas de souci.
Je ne sais pas si tu peux ouvrir.
Si, c'est bon.
Je l'ouvre jamais, là.
Tu l'ouvres jamais? Non?
Ça ne devrait être juste.
Comment?
Avec
ton déambulateur?
Ouais, je veux, mais j'ai peur de tomber encore.
Ouais, avec les marches.
Ouais. Ouais.
On dirait une petite planche ou quelque chose.
Ouais, une cale, ouais.
De beaux carreaux.
Superbe.
On va voir à travers.
Ah oui, hein, c'est pas été vite sale. Hein. Les carreaux, la mer, hein, en plus. Hein.
Les carreaux, c'est toujours sale. Et les mouches, t'as beaucoup de mouches?
Ah oui, oui, les petites mouches. Hein.
C'est une horreur.
Nadège. Valise, grosse valise,
oui.
Petit sac à dos. Là, vous allez à l'embarcadère?
Oui, à pied. Je vais prendre le bateau à pied. Oui.
D'accord. Comment s'est passée cette journée pour vous?
Bah, toujours aussi agréable, une journée bien chargée avec des gens très accueillants et qui sont plutôt contents qu'on vienne les voir jusqu'à Lisieux. Voilà.
Ah, pas stressé en fait.
Ah bon non. Puis alors les gens de Lisieux n'étant pas stressés, il ne faut pas quelqu'un de stressé qui vienne.
Vous n'êtes pas stressé non plus.
Bon, non, ça se voit. Pourquoi être stressé pour.
Pourquoi ça chrame dans votre vie?
Je savais que je voulais faire quelque chose, un métier dans le milieu de la santé. Et bah pour moi, c'est être à l'écoute des femmes et au service des femmes. Donc c'est quelque chose d'important. Voilà.
Bonne traversée, bonne mer.
Merci.
Je vais avoir 93 dans 2 mois.
Et vous, Sylvie, vous avez quel âge?
Moi, je fais partie des jeunettes, parce que j'ai 84.
Et vous, Liliane?
94.
Un an de plus. Oui. Mais quant à moi, ma vie est toute différente. Je suis donc née à Bruxelles. J'ai vécu à Bruxelles quasi toute ma vie. J'ai eu un fils. Et puis, je suis rentrée. J'étais fonctionnaire à la Défense, à Bruxelles, hein, pas à Paris. Parce que quand je dis ça ici, on réagit tout de suite. Ah ben, à la Défense, je dis oui, mais Bruxelles a aussi une Défense. Pour dire plus au contentieux accident, je tenais le secrétariat et j'ai été retraitée avec 42 annuités. Donc voilà une carrière bien plane, bien...
Racontez-moi l'hiver dernier.
La neige me manque. La neige me manque. Ah oui, c'est pas un hiver ici.
Moi, c'est l'inverse.
C'est pas... Non, non. Vous savez, là, en hiver, quand il fait mauvais, alors moi, je regarde le ciel, je me dis, s'il pouvait y avoir un petit flocon. Je sais, il va fondre, mais rien que les voir, c'est beau, c'est magnifique, des flocons de neige. On ne sait jamais si, on ne sait jamais s'ils vont descendre ou s'ils remontent. Parce que ça volette comme ça. C'est beau, quand tout est plein de givre, jusqu'aux toiles d'araignée, ce sont des dentelles, c'est d'une beauté.
Comme le temps est très changeant, en fait, il ne fait pas toujours beau, mais on a toujours l'espoir qu'il va faire beau, parce que le vent va tourner... Et puis, on va trouver un rayon de soleil quelque part. Ça peut tourner plusieurs fois dans la journée.
Suivez depuis ici, même si on a compris que l'Île-Dieu, c'est à côté de la France, c'est pas la France, les débats sur la fin de vie.
Oui, tout à fait. On en a même parlé hier dans notre réunion de soins palliatifs. Voilà, bon, le texte de loi a été voté à l'Assemblée nationale, il est parti au Sénat. Bon, il reviendra ensuite à l'Assemblée nationale. Nous, on attend les décrets d'application. On commence à en discuter. On verra qu'est-ce que la loi prévoira. Est-ce que ça prévoira une fin de vie, un suicide assisté pour le coup à l'hôpital? Est-ce que ce sera à domicile? Selon quelle modalité, avec quelle molécule, quelle drogue qu'on utilisera, on parle de pentobarbital peut-être, qu'on n'a pas actuellement dans la pharmacie. Donc voilà, en tout cas, il y aura un travail de fond là-dessus dès qu'on aura les décrets d'application, bien sûr.
Bonjour Didier Martin.
C'est moi-même. Didier
Martin, c'est lui là.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Didier Martin?
Pompe funèbre, marbrier en même temps, depuis 40 ans, on va dire, voilà. Autrefois, on avait des pompes funèbres qui étaient des menuisiers qui vendaient les cercueils. Les gens allaient commander le cercueil au menuisier, et les transports en cérémonie, c'était les taxis. Le taxi de chez nous, l'Île-Dieu, qui faisait des cérémonies avec ça. Et j'ai pris cette activité en 85. Et depuis, on a fait la marbrerie en plus. Et maintenant, on gère bien sûr les décès aussi bien sur l'île-dieu qu'à l'extérieur. On fait à peu près 60-70 décès l'an. C'est une petite entreprise. On est 3-4 à travailler, en comptant les gardes du week-end. Et aujourd'hui, j'arrive à l'âge de la retraite. J'ai déjà 2 ans de retraite, mais je suis toujours dans mes locaux. Et j'ai du mal à céder mon activité, c'est ça.
Didier Martin, quand il y a un décès de l'autre côté, comment on fait avec le corps?
Simplement, nous avons un corbillard qui est basé sur Fromentine. On appelle une société qui fait les transports de corps, que ce soit une conservation ou toilette. Ils vont chercher les défunts à l'hôpital de Châlons, La Roche, Nantes ou autre. On fait les transferts de corps à l'embarcadère de Fromentine. Nous, on les rejoint à Fromentine, bien sûr, et on revient sur l'île-dieu avec.
Donc il prend le bateau?
Il prend le bateau, le corps, bien sûr, pour revenir sur son île. S'il est enterré, bien sûr, sur l'île-dieu.
Et le tarif d'un corps qui traverse Fromentine et l'île-dieu, c'est le tarif d'un vivant?
Pas du tout. Il ne paye pas son transport, le défunt. Juste le corbillard qui est pris en charge quand même pour les familles. Pour être inhumé sur l'île-dieu, il faut soit être décédé sur l'île-dieu, soit avoir sa résidence principale, ou soit une tombe de famille où on peut rejoindre quelque part. Mais un continental ne peut pas s'enterrer s'il meurt, admettons, à Paris ou à Nantes, à l'île-dieu.
Mais est-ce que y a beaucoup de gens, le défunt passe par l'étape de la crémation, mais ensuite les cendres sont versées en mer?
C'est possible. On les met pas sur le bord du rivage, on n'a pas le droit. Je crois que c'est 300 mètres au-delà de la côte et en pleine mer. On reprend un bateau et on va faire la dispersion. On fait une petite cérémonie en mer quand on prend la SNSM, où les familles font simplement le choix d'y aller seules. Le tout, c'est qu'on nous donne la position du bateau où les cendres ont été dispersées. On ne doit pas mettre des cendres n'importe où sans l'autorisation du maire.
Naître, vieillir, mourir. Avec Paulette, Liliane et Sylvie, pensionnaires à l'EHPAD, Marc-Antoine Larvor, chef de service de l'hôpital du Monté, la sage-femme Nadège Renard, l'infirmier Bastien Desplanques, Éric Tarot, président de la SNSM, Didier Martin, responsable des pompes funèbres, et Virginie Tarot, aide à domicile, avec Sophie. Remerciements, Nathalie Semelin, directrice de l'EHPAD des Chênes Verts. La série documentaire, coordination Emmanuel Laurentin. Chargée de programme, Marie-Vonne Bolivier, Anaï Morales. Mixage, Manon Houssin. Réalisation, Thomas Duterre. Un documentaire de Michel Pomared.